Bonjour tout le monde et bienvenue à ce tout nouvel épisode de Première Loge spécial séries éliminatoires d'Inside Hockey où on revient sur l'actualité dans Inside Hockey dans ces séries éliminatoires. Pour l'occasion, on est juste deux, c'est moi, Dolly Ibrahim, qui va être à l'animation de cet épisode et je suis accompagné de mon bon ami Olivier Prince-Groulot. Ali, comment vas-tu?
Ça va très bien, Dou. Toujours content de parler de hockey.
Bah, écoute, tant mieux, on va en parler, mais écoute, il y a de moins en moins d'action, c'est normal, on est déjà rendu à 8 équipes, puis... Il y a déjà des équipes qui vont faire face à l'élimination, ça on va revenir un peu plus tard là-dessus. Puis écoute, on a quand même droit à deux matchs, en tout cas, mardi, on a eu deux matchs à sens unique, on va se dire, autant dans l'Est que dans l'Ouest, mais surtout un dans l'Est qu'on va commencer tout de suite. C'était le match numéro 3, match numéro 4, pardon, entre les Devils de New Jersey et les Hurricanes de Caroline. Les Hurricanes venaient 2-1 dans cette série-là. Et avait l'occasion de pousser cette série-là à la limite avec une avance de 3-1. Et c'est ça qu'ils ont fait. Match à sens unique pour les Hurricanes de Caroline qui l'ont emporté 6-1. Mais pourtant, ça avait bien commencé du côté des Devils de New Jersey dans cette rencontre-là. Jack Hughes avait marqué après seulement 1 minute 55 de jeu pour donner devant 1-0 aux Devils de New Jersey. Et par la suite, Michael Natchez avait marqué... Enfin, de première période pour égaler 1-1. Et par la suite, les Hurricanes de Caroline ont juste pris le contrôle total de cette rencontre-là. En deuxième période, Michael Natchez a marqué son deuxième but de la rencontre pour donner 2-1 à la Caroline. Par la suite, Brett Pesci, Brett Burns qui marque son premier des séries et Jordan Martinook ont marqué pour donner les devants aux Hurricanes de Caroline 6-1 après... Après seulement deux périodes de jeu et par la suite, il n'y a pas eu de but en troisième période, mais ça reste que le mal était déjà fait. Les Hurricanes de Caroline l'ont emporté 6-1 au New Jersey, puis prennent une avance de 3-1 et pourront éliminer les Devils de New Jersey lors du prochain match qui aura lieu du côté de Raleigh. Lee, qu'est-ce qu'on a passé de cette débandade des Devils de New Jersey, surtout en deuxième période?
Ben écoute, moi, j'avais l'espoir qu'après avoir gagné le match numéro 3, les Devils puissent être menaçants à nouveau au match numéro 4. Yes. Et faire un peu comme ils avaient fait dans la série contre les Rangers et revenir. Mais on a eu de l'espoir, comme tu l'as dit, avec le but de Jack Hughes dès le début. Mais ensuite, la chaîne a totalement débarqué pour les Devils. Dans les buts, Vanecek ne m'inspire pas confiance tant que ça dans cette série-là, même s'il avait été bon au match numéro 3. Mais voilà, je m'attendais à ce que les Devils aient encore ce caractère, ce chien, pour être capable d'offrir une bonne opposition dans le match numéro 4. Je ne m'attendais pas nécessairement à une victoire, mais de refaire le coup aux Hurricanes comme ils avaient fait avec les Rangers, c'est quelque chose que je croyais possible. Mais ça ne s'est vraiment pas produit. Puis, il faut donner crédit aux Hurricanes là-dessus, qui, je pense, sont une équipe plus équilibrée, très bien coachée, on le sait, avec Rob Brind'Amour, qui était en mesure de complètement éviter le piège des Devils, que les Rangers étaient tombés dedans aussi. Et voilà, Frédéric Anderson du côté des Hurricanes tient encore le fort et est excellent dans ces séries-là au niveau du taux d'efficacité, surtout. Puis voilà, tout le monde produit chez les... Chez les Hurricanes, t'as nommé tous ceux qui ont marqué, mais c'est six marqueurs. Non, il y a Netchas qui a deux buts, mais sinon, c'est tous des marqueurs différents. Martinook, qui a, je pense, je sais pas combien de points.
9 points en 4 matchs. Et tu sais qu'est-ce qui est fou? C'est qu'il y avait 0 point en 6 rencontres contre les Islanders. Donc, c'est 9 points, c'est en 4 dans les 4 matchs dans cette série-là contre les Devils. C'est assez phénoménal, là.
Ouais, vraiment. Puis, tu sais, il est en mode beast mode, Martinook, qui fait des buts avec des très beaux tirs, il faut le dire. Il assiste aussi. Brent Burns, un but et une passe, je crois, dans le match aussi. Brent Burns, qui avait joué du bon hockey dans la série précédente contre les Islanders, continue d'être très bon avec son apport offensif du côté des Hurricanes. En plus de ça, il n'est pas si mauvais défensivement. Fait que Honnêtement, les Hurricanes sont très équilibrés et malgré leurs blessés, je pense qu'ils sont de très bons candidats à la finale de la Coupe Stanley.
Ben écoute, ça tombe bien que tu me dis parce que moi, personnellement, dans mon bracket, je vois les Hurricanes de Caroline en finale de la Coupe Stanley. Je n'ai pas changé mon bracket. Mon bracket de passe, c'est les Hurricanes de Caroline qui vont en finale de la Coupe Stanley. Ils perdent en finale de la Coupe Stanley, mais ils vont en finale de la Coupe Stanley. Donc,
j'avais bien hésité à les mettre en finale, moi aussi, mais je ne l'ai pas fait et je le redoute maintenant.
T'as pris Boston, quoi?
Non, man, j'avais pris Toronto.
Ah, mais écoute, c'est pas fini. T'avais dit. C'est pas fini. Mais écoute,
Mais toi aussi, tu voyais Toronto passer le deuxième tour, hein? Toi aussi, tu voyais Toronto passer le deuxième tour?
Ouais, j'ai voyé en finale de la conférence. Perdre contre la Caroline.
Moi, je les avais fait gagner contre la Caroline, je pense.
Bref. Ah, OK. Mais bref, on n'est pas loin.
Toronto, je n'ai plus. Ce sera un autre sujet, mais je n'ai plus de. J'ai plus vraiment d'espérance pour eux, là, surtout après avoir perdu 3 matchs contre les Panthers. Mais bon, ils ont gagné le dernier. On en parlera dans le prochain épisode. Mais ouais, les Hurricanes sont solides, c'est ça le point.
Ouais. Puis écoute, moi, c'est juste qu'au niveau des gardiens de but, t'es à Kira Schmidt qui a été excellent dans la première rencontre. Dans la première ronde, je veux dire, contre les Rangers. Puis après ça, ça a été très difficile pour lui lors des deux premières rencontres. Il s'est fait remplacer par Vitek Vanecek qui avait été pour vrai très chanceux contre les Rangers de New York. Puis, ouais. À mon avis, il l'a encore dans cette série-là. Tu avais dit qu'il ne s'était pas.
Il avait quand même
été au match numéro 3. Dans une game où les Devils de New Jersey avaient remporté 8-4. Donc, il pouvait se permettre d'accorder pas mal de buts. Mais là, 6-1, il n'a pas fait des erreurs au bon moment. Puis, écoute, la deuxième période, les Devils de New Jersey étaient catastrophiques. Là.
Ouais.
Genre, ils étaient deuxième. Et c'était deuxième tout au long de la partie sur la rondelle. C'était lent, c'était mou, puis ils ont accordé 5 buts. Puis, hey, moi, c'est le nombre de revirements. Là. 26 revirements dans la rencontre de la part des Devils de New Jersey. C'est inacceptable.
Ouais.
C'est ça qu'ils ont coulé. Puis,
t'as raison. Quelle statistique? 26 revirements. Combien pour les Hurricanes? 2.
2.
Ça montre comment la tactique fonctionne là, chez les Hurricanes, puis comment chez les Devils, manque d'expérience, la nervosité qui embarque aussi à un moment donné quand tu es en retard, puis que tu perds 3-4-1 dans un match.
Yes.
Puis, ouais, tu l'as dit, la deuxième période est complètement désastreuse.
Ouais, puis écoute, ils se retrouvent dans cette issue de 3-1. C'est pas impossible, mais c'est hyper ardu pour une équipe qui est assez. Une équipe qui est comme celle des Devils de New Jersey, qui a sa première expérience en séries éliminatoires pour la majorité du groupe, ce ne sera pas facile, loin de là. Puis écoute, moi, j'ai hâte de voir ce qui va se passer, mais écoute, je suis pas mal certain que les Hurricanes devraient se sortir lors de la prochaine rencontre. Ils sont à domicile. Les Hurricanes aussi sont très bons à la maison. Ils ont seulement une défaite dans ces séries-là, mais c'était de justesse en plus contre. Contre les Islanders au match numéro 5, c'était pas Sorokin, il aurait probablement remporté ce match numéro 5-là. Donc, moi, j'ai hâte de voir ce qui se passe sur cette série-là. T'as-tu quelque chose d'autre à rajouter sur cette série-là? Ou...
Ouais, ben, en fait, je vais faire une comparaison. En fait, les Hurricanes, là, en passant à ça, me font un peu penser au Kraken, mais en plus habile, avec plus de profondeur, de meilleurs joueurs offensifs, de meilleurs joueurs défensifs aussi. Je pense à Jacob Slavin, entre autres. Et c'est une équipe très soudée qui. Se base beaucoup sur leur collectif qui est très bon et tout le monde produit, un peu comme avec le Kraken, tout le monde produit. Netchas est à 4 buts, Stahl est à 6 passes, Jesper Fast connaît de bonnes séries, Martinuk, on en a parlé, même Kotkaniemi produit, Sébastien Aho, tout le monde produit dans cette équipe-là, ou presque. Tout le monde met la main à la porte, un peu comme le Kraken fait, mais les Hurricanes ont une équipe encore plus talentueuse que le Kraken. Fait que je pense que c'est quand même une comparaison qui se tient.
Non, c'est une belle comparaison. J'avais pas pensé, mais non, c'est. Ouais, il y a des similitudes entre les deux équipes. Puis, comme tu l'as mentionné, écoute, je suis pas mal d'accord avec toi que les Hurricanes de Caroline ont une équipe plus talentueuse sur le papier que le Kraken, mais écoute, on sait jamais. Là, puis,
ah oui, le Kraken nous a surpris et il va continuer de surprendre, je pense. Là.
C'est ça, exactement. Puis, on va en parler juste après. Puis dans la seconde instance. Mais aussi, je voulais finir là-dessus. Moi, je trouve ça bizarre que toutes les games dans la série entre les Devils et les Hurricanes de Caroline, tous les matchs n'étaient pas serrés. C'était tous des matchs à haut pointage. C'était les Hurricanes qui ont dominé le match numéro 1, 2 et 4, puis les Devils qui ont dominé le match numéro 3. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe, que ça prend le gardien de but, que ça prend de défense. Je sais pas, on dirait que c'est comme. C'est pas la première fois qu'on voit ça. On va parler lors du prochain épisode, mais aussi dans l'ancien contre les Oilers, Vegas et ouais. Golden Knights. C'est la même chose. Hein.
Mais c'est ça que je trouve avec cette deuxième ronde, c'est qu'on a. On a peu de matchs serrés, ce qui est un peu plate pour le spectacle. Fait que moi, je suis d'accord avec toi. J'espère que ce soir, le match numéro 5 est ce soir, ouais. On va avoir droit à un match plus enlevant, plus serré, parce que, justement, c'est les Devils sont au bord du gouffre. Donc, ça serait intéressant de voir ce soir. Mais je suis d'accord avec toi. Dans la série entre les Oilers et Golden Knights, même celle entre Dallas et le Kraken, il n'y a pas vraiment de match serré.
Le match numéro 1, il l'était, mais à part de ça.
Ouais, c'est ça. Mais après ça, les Dallas, soit Dallas, soit Kraken a dominé l'autre équipe. Fait que on veut des prolongations, on veut des matchs serrés pour avoir plus de spectacles. C'est ouais. Plus fun comme ça, c'est les séries. En ce moment, on n'a pas le droit à ça. Ça reste du bon hockey, mais je suis d'accord avec toi qu'on aime ça serré.
Écoute, ça va être drôle à dire, mais la série la plus serrée au niveau du pointage. C'est la série la plus inégale au nombre de matchs remportés. C'est celle entre les Maple Leafs et les Panthers de Floride. Au niveau du pointage, c'est la plus serrée, mais ça change que quand même les Maple Leafs type d'arrière partent pas mal contre, contre les Panthers de Floride. Puis ça, on va revenir un peu plus tard là-dessus. Bon, Ali, maintenant parlons du deuxième match qui avait eu lieu. On vient d'en parler il y a quelques instants. Le match entre match numéro 4 entre le Kraken de Seattle et les Stars de Dallas du côté de Seattle. Le Kraken menait 2-1 dans cette série-là, avait complètement dominé les Stars lors du match numéro 3 et avait la possibilité de prendre une avance de 3-1. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. Les Stars de Dallas ont eu tout un match. En fait, les Stars de Dallas ont surtout été opportunistes dans cette rencontre-là. Ont marqué 6 buts, ont remporté 6-3, mais quand même 6 buts sur 25 tirs. T'sais, c'est une grande efficacité de la part des Stars. Ça a quand même bien commencé pour les Stars de Dallas qui ont pris des devants 4-0 à mi-chemin en deuxième période. Un début de Jimmy Benn, de Thomas Harley, de Max Domi en ancien Canadien de Montréal et Joe Pavelski qui marque son 6e but des séries. Par la suite, Jalen Schwartz qui a réduit l'écart à 3 buts. Et après ça, Roope Hintz qui donnait une avance de 5-1. Aux Stars après deux périodes de jeu, puis en troisième période, le Kraken a eu un petit semblant de remontée. Ils ont réduit l'écart à 2 buts grâce à Jonas Schwartz et Adam Larsen qui marquait son premier but des saisonnatoires, mais il était trop peu trop tard puisque Max Domi a marqué dans le filet des heures sur le deuxième but de la rencontre pour donner la victoire aux Stars de Dallas 6-3. Ali, pour toi, comment expliquer cette victoire à sens unique des Stars de Dallas au pointage?
C'est une excellente question. Premièrement, il y avait le retour au jeu très important de Miro Heiskanen, qui a joué plus de 31 minutes, je crois. Donc, lui, on le sait, dès qu'il est sorti de l'alignement, même avant qu'il sorte de l'alignement, ça n'allait pas bien pour les Stars dans le précédent match. Mais de le revoir, il est tellement important pour cette équipe-là, Miro Heiskanen. Offensivement, il est excellent défensivement aussi. Il a obtenu une passe hier, déjà est à 8 passes dans ces séries-là. Donc, Heiskanen, même avec une blessée à la joue, là, joue très bien et est très utile aux Stars. Donc, c'est sûr que son retour a fait du bien. Sinon, c'est que les Stars sont capables d'ouvrir la machine offensivement. Puis quand ils l'ouvrent, on sait ce que ça fait. Puis Jason Robertson ne s'est pas encore démarqué dans cette série-là, mais quand même, on réussit à avoir assez d'offensive pour marquer 6 buts du côté des Stars sans que Robertson ne participe. Et voilà, Jamie Benn qui a joué un fort match, Roope Hintz aussi, Joe Pavelski qui marque encore, là, ce gars est fou. Et aussi, je pense qu'il se rapproche là, de plus de buts pour un joueur actif en série éliminatoire. Il n'est pas loin de Crosby et Ovechkin, là, si je ne m'abuse, à quelques buts. Et Max Domi, fort match de Max Domi qui, on doit se le dire, là, est une bonne acquisition pour les Stars à la date limite des transactions. Il a marqué 2 buts, puis est-ce qu'il a obtenu une passe aussi? 2 buts, une passe pour Domi hier. Fait que c'est pas hier, avant hier, donc Très bon match de sa part. Son but qui a été accordé, là, où est-ce que Jamie Benn est entré en contact avec Grubauer, ça, c'est quelque chose qui sème la controverse encore, même à ce jour, encore deux jours plus tard. Je suis mitigé sur cette décision-là, là, honnêtement, parce que, bon, Jamie Benn entre en contact avec Grubauer, ça, c'est sûr et certain. Il y a le premier contact que j'ai vraiment l'impression que Grubauer exagère le fait qu'il soit déporté. Ouais. Comme on dirait que c'est tassé par lui-même. Ensuite, il se replace un peu. Et là, c'est Carson Soucy qui pousse un peu Jamie Benn. Jamie Benn qui tente quand même d'éviter un peu, puis se fait pousser en même temps. Fait que j'ai l'impression que ça aurait pu aller d'un bord et de l'autre.
Ouais.
Mais c'est aussi le fait que Grubauer en rajoute, là, je pense, la première poussée, parce que le contact était léger à la première poussée. Fait que c'est un peu peut-être ça qui a fait en sorte que les arbitres ont accordé le but à cause de la simulation, embellishment, qu'on dit en anglais,
ouais.
De Grubauer là-dessus, que en regardant la reprise, je me dis qu'il y avait un peu de jeu d'acteur là-dedans. Mais en même temps, j'aurais compris si on avait refusé le but, parce que clairement, il y avait un contact qui a empêché Grubauer de faire son travail. Fait que c'était très difficile à juger. Puis aussi, Ben était rendu à l'extérieur, je crois, de la zone bleue. Donc, c'était... Je comprends pourquoi ça n'a pas été signalé, mais je peux comprendre en même temps aussi qu'on soit frustré que ça n'ait pas été refusé. Je pense juste qu'encore une fois, c'est une question de constance arbitrale qui n'existe pas dans ce règlement-là.
Ouais, ben c'est... Quand tu l'as pas vraiment dit, moi, c'est surtout le fait que c'est surtout au deuxième contact là, que moi, je suis plus en mode, ben là, finalement, ouais. Il y a pas... je comprends que le but est accordé. Déjà, t'as Carson Soucy qui pousse Jimmy Benn sur son gardien de but, mais en plus, là-dedans, puis ça, tu l'as mentionné, c'est l'effet que Grubauer était à l'extérieur de son cercle.
Ouais.
Donc, ça, juste ça, là, pour moi, c'était quand tu es à l'extérieur de ton cercle, c'est un peu comme tu es en arrière c'est comme un peu quand tu es en arrière du but. T'es comme, t'as pas d'autre choix à garder un but, oui, en tout temps, mais si tu as provoqué le contact, si tu es vraiment à l'extérieur, c'est sûr que tu es plus susceptible à subir du contact vu que tu as la rondelle. Puis, malheureusement, dans son cas, malgré que c'est très différent les deux, mais j'ai vraiment l'impression que vu qu'il est à l'extérieur de son cercle, plus le fait qu'il a simulé juste un peu avant, je comprends la décision de la NCA d'accorder ce but-là. Puis, écoute, la constance au niveau de l'arbitrage, c'est tout le temps une question qui revient chaque année. Puis, j'ai vraiment l'impression qu'on n'aura jamais, quelque chose de très. De noir et blanc. Là,
ouais.
On n'aura jamais ça. Là. Malheureusement, c'est la nouvelle réalité NCA de hockey. Puis. C'est correct.
Ouais, c'est la nouvelle. Je pense que ça dure depuis longtemps.
Ouais,
depuis
c'est, des années. C'est pas tant nouveau, là, mais
ouais.
NUTT, mais en tout cas, bref.
Puis aussi, là-dedans, là, pour ajouter, là, Dave Axtell a contesté la décision avec raison, parce que ça aurait pu être renversé quand même. Là, je comprends pourquoi il l'a fait. Mais l'affaire, c'est que ça donnait un avantage numérique aux Stars. Et qu'est-ce qui est arrivé? Joe Pavelski a marqué en avantage numérique. Donc là, ça faisait 4-0 pour les Stars. Donc, c'est malheureux pour le Kraken, vraiment. Un but douteux, mais comprenable en même temps qu'on l'ait accordé, comme on l'a dit. Puis, après ça, d'en accorder un autre en avantage, en infériorité numérique. Ça fait mal, mais on quand même, les Kraken sont pratiquement revenus. Et ça, il faut leur donner, parce qu'ils ont seulement 19 tirs là, dans ce match-là. Et ils sont capables de produire 3 buts et de produire quand même de bonnes chances de marquer dans le match. Et ça, à chaque fois que j'assiste à ça... J'ai de la misère à y croire, parce que cette équipe-là ne fait pas grand-chose offensivement, mais arrive à se créer des occasions de marquer, à créer des phases où ils restent longtemps dans le territoire adverse. Et ça me surprend à chaque fois. Quand ils faisaient contre l'Avalanche, je ne comprenais pas comment ils arrivaient à le faire. Là, ils réussissent à le faire contre les Stars et à pratiquement remonter. Là, si ça n'avait pas été du but en filet désert, peut-être qu'on aurait pu y assister. Fait que... Vraiment, chapeau au Kraken de me surprendre, puis d'être capable d'aller chercher 3 buts en n'étant pas tant présent offensivement, sauf quand ça l'importe.
Exactement. Puis, écoute, moi, je pense que c'est problématique. Par contre, du côté des Stars de la troisième période qu'ils ont joué,
ouais.
Déjà, se faire dominer comme ça, le Kraken qui revient tranquillement, c'est pas une bonne chose. Puis, le Kraken a l'avantage de jouer contre Jake Ottinga, qui est vraiment loin d'être au sommet de son art. Donc, écoute, cette série-là, moi, je l'ai dit, cette série-là peut se rendre à la limite. Moi, je pense sincèrement que cette série-là va se rendre à la limite. Parce que,
on dirait que
le momentum switch
tout le temps.
D'un côté à l'autre. Ça peut aller du côté des Stars, ça peut aller du côté du Kraken. C'est... Moi, j'adore ça parce que ça fait qu'on va le droit à une série incroyable, mais faut juste que les scores soient un petit peu plus serrés. Puis
ouais, c'est ça. C'est le fun des matchs en 7, mais on adore les scores serrés exactement. Puis je suis d'accord aussi que ça va se rendre en 7. On l'a vu avec l'Avalanche. L'Avalanche est une meilleure équipe sur papier que le Kraken. Ça, c'est indéniable. Même chose pour les Stars. Mais le Kraken était capable, assez souvent pour gagner la série, d'avoir le momentum, que leur collectif soit supérieur à celui de l'Avalanche. Puis s'ils sont capables de faire ça contre les Stars, ils peuvent non seulement se rendre au match numéro 7, mais encore une fois battre les Stars. Là. Fait que ça va être très intéressant de voir. Puis s'ils battent les Stars, ben je vais essayer de moins les sous-estimer prochaine fois parce qu'à date, je leur donne pas beaucoup de matchs dans chaque série. Mais là, s'ils battent les Stars, je vais devoir les prendre pas mal plus au sérieux.
Ouais, mais moi, écoute, j'ai l'impression que... moi, je pense que les Stars ont quand même trouvé un moyen de battre le Kraken. Là.
Je pense aussi, oui.
Je pense. Moi, je pense que ce serait logique. Parce que la raison pourquoi je dis ça, c'est que ils sont un peu plus en santé que l'Avalanche l'était. Donc, je crois que tout est possible. Mm-hmm. Mais écoute, faut jamais compter le Kraken pour battu. Donc,
jamais.
Ça va être intéressant de voir ce qui va se passer dans ces séries-là. Puis moi, j'ai hâte de voir comment ces séries-là vont se terminer. Puis hâte de voir surtout si un gardien de but va voler un match. Moi, c'est vraiment ça que j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Quel gardien de but va voler un match dans ces séries-là? Est-ce que c'est Jack Attenja comme on l'entend ou Philippe Grubauer peut sauver le Kraken en volant un match? Et à date, on ne l'a pas vu des deux côtés. Donc, moi, je pense que ça peut être quelque chose qui pourrait être à surveiller. Mais c'est loin d'être terminé. Là. Puis, moi, j'ai hâte de voir le prochain match à Dallas. Moi, je pense que je serais pas sûr. Si on suit la logique, le Kraken devrait remporter le match numéro 5, les Stars devraient remporter le match numéro 6 et le match numéro 7. Peut-être que c'est Kraken qui va gagner la série. Si on suit la logique.
Oui, ben oui, mais tu sais, moi, je pense que si les Stars sont capables de mettre en marche leur machine offensive comme ils l'ont fait dans le dernier match et au match numéro 2. C'est très difficile à arrêter, là, on l'a vu. Surtout quand ils ont juste eu 3 avantages numériques, mais 2 en 3. Fait que tu leur en donnes un petit peu, puis ils en prennent quasiment le maximum. Donc, tu sais, une fois que ça, c'est parti, c'est très difficile à arrêter. Mais si le Kraken est capable d'être discipliné, d'imposer leur style de jeu comme ils l'ont fait match numéro 1 et 3, ils peuvent très bien le gagner. Puis tu parlais des gardiens. Jake Ottinger, on l'a dit, n'est pas au sommet de sa forme dans cette série-là. Mais s'il est capable de l'être, je pense que ça va rajouter un gros, gros, gros obstacle au succès du Kraken. Et surtout, si on passe à la finale d'association, et que surtout si c'est contre les Oilers, il faut vraiment que Ottinger soit au sommet de sa forme contre les Oilers. Ça va être primordial, si jamais c'est ça qui arrive, là, Oilers Stars. Et parce que c'est là qu'ils vont pouvoir avoir l'avantage sur les Oilers si Ottinger est meilleur que Skinner, mais on n'est pas rendu là, évidemment.
Non, c'est loin de là. Puis écoute, la série entre les... on va parler dans le prochain épisode, mais la série entre les Golden Knights et les Oilers, c'est une série... tu parles d'une série que tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là. Moi, je pense que cette série-là, honnêtement, cette série-là, là, incompréhensible. Mais on va parler dans le prochain épisode. Écoute, t'as-tu quelque chose d'autre à rajouter avant qu'on conclue l'épisode?
Comme je viens de le dire, là, écoute, faut que pour gagner, les Stars doivent activer leur machine offensive. Puis si elle est partie, elle est très difficile à arrêter. Et Jason Robertson fait partie de cette machine-là. On ne l'a pas assez vu. Si lui, il commence à performer puis à accumuler les buts et les points, attention.
Ça, c'est vrai, t'as parfaitement dit. Puis écoute, c'est inquiétant de voir Jason Robertson qui a quand même 8 points depuis le début des séries, mais est loin d'être...
dans sa présence que Hintz, mettons.
Ouais, c'est ça. Puis écoute, Jason Robertson a quand même une saison de plus de 100 points, malgré qu'il a eu, comme je t'ai dit, il a 8 points à 10 matchs, mais pour un marqueur de 109 points, c'est loin d'être idéal. Sur ce, c'est ce qui conclut ce nouvel épisode d'Aux Premières Loges. Ali, merci beaucoup d'être venu, ça a été un plaisir.
Merci, Dou.
Puis écoutez, mesdames et messieurs, on se revoit dans les prochaines minutes pour un autre épisode d'Aux Premières Loges. Puis au nom de toute l'équipe, je suis Dolly Brahim et on se voit très, très, très bientôt pour un autre épisode d'Aux Premières Loges. Salut tout le monde.